Chapitre 8. Les bénédictins de Saint-Nicolas le Vieux. Le couvent de Saint-Nicolas, le plus riche de Catane, et dont la coupole dépasse en hauteur tous les monuments de la ville, a été bâti vers le milieu du siècle passé, sur les dessins de Contigny. On y remarque l'église et le jardin, l'église pour ses colonnes de verre antique et pour un très bel orgue, ouvrage d'un moine calabrais qui demanda pour tout paiement d'être enterré sous son chef-d'œuvre. Le jardin, pour la difficulté vaincue. Effectivement, le fond est en lave, et toute la terre qui le couvre a été apportée à main d'homme. La règle du couvent de Saint-Nicolas était autrefois très sévère. Les moines devaient demeurer sur l'Etna, aux limites des terres habitables, et à cet effet, leur premier monastère était bâti à l'entrée de la seconde région, trois quarts de lieu au-dessus de Nicolosi. Dernier village que l'on rencontre en montant au cratère. Mais tout ça s'affaiblit à la longue. La règle perdit peu à peu de sa rigueur et on commença à ne plus réparer le couvent. Bientôt, une ou deux salles s'étaient affaissées sous le poids des neiges. Les bons pères firent bâtir la magnifique succursale de Catane, qui prit le nom de Saint-Nicolas le Neuf, et ne demeurèrent que pendant l'été à Saint-Nicolas le Vieux. Plus tard, Saint-Nicolas le Vieux fut abandonné, été comme hiver. On parla pendant 3 ou 4 ans d'y faire des réparations qui le rendraient de nouveau habitable, mais on s'en garda bien. Enfin, une bande de voleurs, gens beaucoup moins difficiles sur leurs aises que les moines, s'en étant emparés et ayant élu domicile, il ne fut plus aucunement question de remonter à Saint-Nicolas le Vieux, et les bons pères, qui ne se souciaient pas d'avoir des discussions avec de pareils hôtes, leur abandonnèrent la tranquille jouissance du couvent. Cela donna lieu à une méprise assez curieuse. En 1806, le comte de Weder, allemand de vieille roche, comme son nom l'indique, partit de Vienne pour visiter la Sicile. Il s'embarqua à Trieste, prit terre à Ancône, visita Rome, s'y arrêta ainsi qu'à Naples, pour y prendre quelques lettres de recommandation, se remit de nouveau en mer et débarqua à Catane. Le comte de Weder connaissait de longue date l'existence du couvent Saint-Nicolas et la réputation qu'avaient les bons pères de posséder parmi leurs frères servants le meilleur cuisinier de toute la Sicile. Aussi le comte de Weder, qui était un gastronome très distingué, n'avait-il point manqué de se faire donner à Rome par un cardinal avec lequel il avait dîné chez l'ambassadeur d'Autriche, une lettre de recommandation pour le supérieur du couvent de Saint-Nicolas. La lettre était pressante. On recommandait le comte comme un pieux et fervent pèlerin, et l'on réclamait pour lui l'hospitalité pendant tout le temps qu'il lui plairait de rester au monastère. Le comte était savant à la manière des Allemands, c'est-à-dire qu'il avait lu une grande quantité de bouquins parfaitement oubliés, de sorte qu'il pouvait, à l'appui de ces assertions, si erronées et si ridicules qu'elles fussent, citer un certain nombre de noms inconnus, qui donnaient une sorte de majesté pédantesque à ces paradoxes. Or, parmi ces bouquins, se trouvait un catalogue des couvents de bénédictins répandus sur la surface du globe, et il avait vu et retenu, avec la ténacité d'un esprit d'outre-Rhin, que la règle des bénédictins de Saint-Nicolas de Catane leur enjoignait, comme je l'ai dit, de demeurer sur la dernière limite de la Regione Coltirata et sur la première de la Regione Nemorosa. Aussi lorsqu'il fit venir un muletier pour qu'il le conduisît à Saint-Nicolas et que le muletier lui eut demandé si c'était Saint-Nicolas le Neuf ou Saint-Nicolas le Vieux, le comte répondit sans hésiter « A San Nicolo sull'Etna ». C'était tout ce que le comte savait d'italien. Il n'y avait pas à s'y tromper, et l'indication était précise. Cependant, le muletier hasarda quelques observations. Mais le comte lui ferma la bouche en lui disant « Je bairai bien ». On connaît la puissance habituelle d'un pareil argument. Le muletier salua le comte, et une demi-heure après, revint avec une mule. « Eh bien ?» dit le comte. « Eh bien, Excellence, répondit le muletier qui, en sa qualité de guide, comprenait toutes les langues. « Eh bien, ma pagache. Votre Excellence emporte son bagage ?»« Partieu. »« Oh, dit le muletier, c'est que votre Excellence eût pu le laisser à l'auberge. »« c'eût été plus sûr. « Je ne quitte jamais ma pacache, entendez-vous » dit l'Allemand. Le muletier répondit par un signe imperceptible qui voulait dire « Chacun est libre » et s'en alla chercher le second mulet. Cependant, lorsque le mulet fut chargé, l'honnête guide crut devoir à sa conscience de faire une dernière observation. « Ainsi, votre Excellence est décidée. » « Certainement, » répondit le comte en fourrant une énorme paire de pistolets dans les fontes de sa monture. « Elle va à Saint-Nicolas-le-Vieux. »« J'y fais. » »« Votre Excellence a donc des amis à Saint-Nicolas-le-Vieux. »« J'ai une lettre pour le général. »« Pour le capitaine, » veut dire Votre Excellence. « Pour le général que je dis. »« dit le Sicilien. « D'ailleurs, je bairai bien, entends-tu, Marot ?»« Pardon, » continua le guide, « mais puisque Votre Excellence est dans de si bonnes dispositions, lui serait-il égal de me payer d'avance ?»« D'avance ? Et pourquoi ça ? Parce qu'il est déjà 3 heures, et que nous n'arriverons pas avant la nuit, et que je voudrais revenir tout de suite. »« À la nuit, » dit le comte, « au moins soupe-t-on au couvent. »« Au couvent ?»« Oui, à Saint-Nicolo. »« Oh, certainement qu'on y soupe. » On y est même plus sûr d'y trouver la table mise la nuit que le jour. Les farceurs, dit le comte, dont un éclair gastronomique illumina le visage. Tiens, voilà pour ta bonne nouvelle que tu me donnes. Et il lui remit 2 piastres, qu'il tira d'une bourse admirablement garnie. Merci, Excellence, répondit le muletier, qui, une fois payé, n'avait plus rien à dire. Eh bien, partons-nous maintenant, reprit le comte. Quand vous voudrez, Excellence. Le guide aida le comte à monter sur sa mule et se mit en route en chantant une espèce de cantique qui ressemblait beaucoup plus à un miserere qu'à une tarentelle. Mais le comte était trop préoccupé du dîner qu'il allait faire pour remarquer tout ce que ce prélude avait de mélancolique. La route se fit assez silencieusement. Le guide avait fini par croire, en voyant la confiance du comte appuyée de 2 énormes pistolets qu'il avait logés dans ses fontes, qu'il était au mieux avec les hôtes de Saint-Nicolas-le-Vieux, et que même, peut-être, il faisait partie de quelques bandes de la Bohème qui étaient en relation d'intérêt avec celle de la Sicile. Quant à lui, il savait que personnellement, il n'avait rien à craindre, les muletiers étant généralement sacrés pour les voleurs, et doublement, comme on le comprend bien, lorsqu'il leur amène une si bonne pratique que paraissait être le comte. Cependant, à chaque village qu'il rencontrait sur la route, le muletier s'arrêtait sous un prétexte ou sous un autre. C'était une espèce de transaction qu'il faisait avec sa conscience, pour donner au comte le temps de faire ses réflexions et de retourner en arrière si bon lui semblait. Mais à chaque halte, le comte reprenait d'une voix que la faim rendait de plus en plus pressante. « En avant, allons, en avant, der Teufel, nous n'arriverons jamais !» Et il repartait suivi par les regards ébahis des paysans qui venaient d'apprendre du guide le but de cet étrange pèlerinage, et qui ne comprenaient pas que, sans y être conduit de force, on eut l'idée de faire le voyage de Saint-Nicolas-le-Vieux. Ils traversèrent ainsi Gravine, Santa Lucia de Catarica, Manangiuntate et Nicolosi. Arrivé à ce dernier village, le guide fit un dernier effort. « Excellence, » dit-il, « à votre place je souperai et je coucherai ici. Puis demain, j'irai en me promenant comme cela, tout seul, à Saint-Nicolas-le-Vieux. Est-ce que tu ne m'as pas dit que je trouverais un bon souper et un bon lit au confort ?»« Par Dieu, si, » répondit le guide, « s'ils veulent vous bien recevoir. Mais quand je t'ai dit que j'ai une lettre pour le général, pour le capitaine, non !» Pour la générale. Enfin, dit le guide, puisque vous le voulez absolument, certainement que je le veux. En ce cas, allons. Et les 2 voyageurs se remirent en route. Comme l'avait dit le muletier, la nuit était venue. Il ne faisait pas de lune, on ne voyait pas à 4 pas devant soi. Mais comme le muletier connaissait parfaitement le terrain, il n'y avait pas de risque de se perdre. Il prit un petit sentier, à peine tracé, qui s'écartait à droite dans les terres. Puis, commençant à quitter la région cultivée, il entra dans celle des forêts. Au bout d'une heure de marche, il vit se dessiner une masse noire, aux fenêtres de laquelle on n'apercevait aucune lumière. « Voilà Saint-Nicolas-le-Vieux, » dit à voix basse le muletier. Oh oh, dit le comte, voilà un couffant d'un rat à une situation bien mélancolique. Si vous voulez, repartit vivement le guide, nous pouvons retourner à Nicolosi. Et si vous ne voulez pas coucher à l'auberge, il y a un excellent homme qui ne vous refusera pas un lit, Monsieur Gemellar. Je ne le connais pas. D'ailleurs, c'est à Saint-Nicolas que je veux aller, et non à Nicolosi. Zerebello da Tedesco, murmura le Sicilien. Puis, fouettant ses deux mules, il se remit en marche. 5 minutes après, ils étaient à la porte du couvent. Le couvent n'avait rien de plus rassurant pour être vu de plus près. C'était une vieille fabrique du XIIe siècle, où il était facile de lire les ravages de chaque éruption qui avait eu lieu depuis le temps de sa fondation. La date de tous les incendies et de tous les tremblements de terre était là, sculptée sur la pierre. À certaines dentelures qui se détachaient en vigueur sur un ciel bleu foncé, tout brillant d'étoiles, il était facile de reconnaître qu'une partie des bâtiments tombait en ruine. Cependant, les murailles qui entouraient l'édifice paraissaient assez bien entretenues, et l'on y avait pratiqué des meurtrières, ce qui donnait à Saint-Nicolas-le-Vieux plutôt l'apparence d'une forteresse que l'aspect d'un monastère. Le comte regarda tout cela d'un air fort calme et ordonna au muletier de frapper. Celui-ci, qui en avait pris son parti, souleva un vieux marteau de fer tout rongé par la rouille et le temps et le laissa retomber de toute sa pesanteur. Le coup retentit dans les profondeurs du couvent et une cloche au son aigre répondit. Presque en même temps, une petite fenêtre pratiquée à 10 pieds de hauteur s'ouvrit. Il en sortit un long tube de fer qui se dirigea vers la poitrine du comte. Une tête barbue se montra à l'ouverture et une voix qui n'avait rien de l'onction monacale demanda « Qui va là ?»« Ami, » répondit le comte en écartant de la main le canon du fusil. « Ami !» En même temps, il lui sembla sentir arriver par la fenêtre ouverte une odeur de rôti qui lui réjouit l'âme. « Ami, dit l'homme de la fenêtre, « et qui nous prouvera que vous êtes un ami ?» Et il ramena le canon de fusil dans la direction première. « Ma très chère frère, répondit le comte en écartant de nouveau et avec le même sang-froid l'arme qui le menaçait, « je comprends très bien que vous preniez vos précautions avant de recevoir les étrangers. Et j'en ferai autant de votre place, moi. Mais j'ai une lettre du cardinal Morosini pour le général Afou. Pour notre capitaine, reprit l'homme au fusil. Et non, pour la générale. Enfin, ça ne fait rien. Vous êtes tout seul, continua l'interlocuteur. Tout seul. Attendez, on va vous ouvrir. « Ça sent bon, la rôtie ?» dit l'Allemand en descendant de sa mule. « Excellence, demanda le muletier, qui pendant ce temps avait déchargé le bagage du comte. « Vous n'avez plus besoin de moi. »« Tu feux bâton cresté ?» reprit le comte. « Non, dit le muletier, avec votre permission, j'aime mieux aller coucher ailleurs. »« Eh bien, phare, dit le comte. « Faudra-t-il vous venir chercher ?» demanda le Sicilien. « Non, la générale me fera reconduire. » Très bien. Adieu, Excellence. Adieu. En ce moment, la clé commença à grincer dans la serrure. Le guide sauta sur une de ses mules, prit la bride de l'autre et s'éloigna au trot. Il était déjà à une 50aine de pas quand la porte s'ouvrit. Ça sent bon, dit l'Allemand en humant l'odeur qui venait de la cuisine. Ça sent très bon. Vous trouvez ? Demanda l'étrange portier. Oui, dit le comte. Oui, je trouve. C'est le souper du chef qui est en route et que nous attendons d'un moment à l'autre. Alors j'arrive bien, dit le comte en riant. Est-ce qu'il vous connaît, notre chef ? Demanda le portier. Non, mais chez a une lettre pour lui. Ah, c'est autre chose. Voyons, la voilà. Le portier prit la lettre et lut. Al reverendissimo au général de Benedetti, al convento di San Nicolo di Catania. « Ah, je comprends, dit le portier. Ah, vous comprenez, c'est bien heureux, dit le comte en lui frappant sur l'épaule. En ce cas, mein ami, si vous comprenez, chargez-vous de ma package et prenez garde, surtout au bord de manteau. C'est là où est ma bourse ? Ah, c'est là où est votre bourse. C'est bon à savoir, dit le portier en prenant le porte-manteau avec un empressement tout particulier. Puis s'étant emparé du reste du bagage. Allons, allons, continua-t-il, je vois bien que vous êtes un ami. Venez, venez. Le comte ne se le fit pas dire deux fois et suivit son guide. L'aspect intérieur du couvent n'était pas moins étrange que son aspect extérieur. Partout des ruines, beaucoup de futailles défoncées, nulle part de crucifix ni de sainte image. Le comte s'arrêta un instant, car il était de ces causeurs qui ont la mauvaise habitude de s'arrêter quand ils parlent, et il exprima son étonnement à son guide d'une pareille dévastation. « Que voulez-vous ? » lui répondit son guide. « Nous sommes un peu isolés, comme vous avez pu le voir, et comme la montagne est pleine de mauvais sujets qui ne craignent ni Dieu ni diable, nous ne laissons pas traîner le peu que nous possédons. Tout ce que nous avons d'objets précieux est sous clé, dans les caves. D'ailleurs, vous savez que nous avons un autre monastère dans la plaine, tout près de Catane. Non, je ne le savais pas. Ah, vous avez un autre monastère. Dien, dien, dien. Maintenant, examinez vous-même votre bagage, pour que vous puissiez attester au chef qu'il n'en a rien été détourné. Oh, c'est bien facile. Ein Mal, ein Sack, des nuits et ein Portmanteau. Che foulard recommande la porte-manteau. C'est là qu'est ma empourse. Ainsi trois objets seulement, n'est-ce pas? Ce n'est guère. C'est assez. Vous trouvez-vous? Oui, je trouve. Eh bien, attendez là, dit le portier en faisant entrer le comte dans une espèce de cellule. Et je ne doute pas que d'ici à une demi-heure, le chef ne soit de retour. Et il fit mine de s'en aller. Dites donc, est-ce qu'on l'entendant, je ne pourrais pas descendre à la cuisine? Je donnerais peut-être de bons conseils au cuisinier, moi. Ma foi, dit le portier, je n'y vois pas d'inconvénient. Attendez ici, je vais mettre votre bagage en sûreté, et je viens vous reprendre. À propos, combien y a-t-il dans votre bourse? 3600 ducats. 3600 ducats, bon, reprit le portier. Ça m'a l'air d'un bien honnête homme, murmura le comte en regardant s'éloigner le frère qui emportait toute sa robe. Ça m'a l'air d'un bien honnête homme. 10 minutes après, son guide était de retour. Si vous voulez descendre à la cuisine, dit le Sicilien, vous êtes libre. Oui, je le veux. Où est-ce la cuisine? Venez. Le comte suivit de nouveau son guide, qui le conduisit dans les cuisines du couvent. La broche était garnie, tous les fourneaux étaient allumés, et des casseroles bouillaient partout. « Pont !» dit l'Allemand, s'arrêtant sur la dernière marche, en embrassant d'un coup d'œil ce spectacle succulent. « Pont ! Il paraît que je ne suis pas trompé, jour de jeûne. Bonjour, cuisinier, bonjour !» Le cuisinier était prévenu. Il reçut en conséquence le comte avec toute la déférence qu'il devait à un gourmet. Le comte en profita pour aller lever le couvercle de toutes les casseroles et goûter à toutes les sauces. Tout à coup, il s'élança sur le cuisinier qui allait verser du sel dans une omelette et lui arracha des mains le vase où étaient les œufs. « Eh bien, qu'est-ce que tu fais donc ?» s'écria le comte. « Comment, qu'est-ce que je fais ?» demanda le cuisinier. « Fui, qu'est-ce que tu fais ? Je te le demande. Je mets du sel dans l'omelette. Mais malheureux, on met bas de sel dans l'omelette. On met du sucre. Des confitures, des pommes confitures de groseille. Allons donc, reprit le cuisinier en essayant de lui arracher le vase des mains. Non bas, dit le comte. C'est moi qui la ferai l'omelette. Donne-moi tes confitures. Ah, dit le cuisinier en s'échauffant. Nous allons voir un peu qui est le maître ici. C'est moi, dit une voix forte. Qu'y a-t-il? Le comte et le cuisinier se retournèrent. Un homme de 40 à 45 ans, vêtu d'une robe de moine, se tenait debout sur l'escalier. Il était de haute taille et avait cette physionomie dure et impérieuse de ceux qui sont habitués à commander. « Le capitaine !» s'écria le cuisinier. « Ah !» dit le comte, « c'est le général ! Bon, général » continua-t-il en s'avançant vers le moine. « Je vous t'aimante, pardon, mais vous avez un cuisinier qui ne sait pas faire. les hommes l'aident. Vous êtes le comte de Vedder, monsieur, dit le moine en très bon français. Oui, ma générale, répondit le comte sans lâcher les œufs ni la fourchette avec laquelle il s'apprêtait à les battre. Je suis le comte de Vedder en Bersen. Mais c'est vous qui m'avez apporté la lettre de recommandation que m'a remise le frère portier. Moi-même. Soyez le bienvenu, monsieur le comte. Le comte s'inclina. Seulement, continua le moine, je regrette que la situation écartée de notre couvent, son éloignement de tout lieu habité, ne nous permette pas de vous mieux recevoir. Mais nous sommes de pauvres solitaires des montagnes, et vous nous pardonnerez, je l'espère, si notre table n'est pas mieux garnie. Comment, pas mieux garnie? Mais la souper, elle me semble excellente au contraire, et quand j'aurai fait l'omelette aux confitures. Mais capitaine, dit le cuisinier, donnez les confitures à monsieur et qu'il fasse son omelette comme il l'entendra, dit le moine. Le cuisinier obéit sans souffler mot. Maintenant, dit le moine, ne vous gênez pas, monsieur le comte. Faites comme chez vous, et lorsque votre omelette sera finie, remontez, nous vous attendons. C'est l'affaire de 5 minutes. Je remonte. Faites toujours servir. Vous entendez, dit le moine au cuisinier, faites servir. Et il remonta l'escalier. Un instant après, deux frères descendirent et se mirent aux ordres du cuisinier. Pendant ce temps, le comte, triomphant, confectionnait son omelette. Lorsqu'elle fut finie, il remonta à son tour. Le supérieur l'attendait avec toute la communauté qui se composait d'une 20aine de frères, dans un réfectoire bien éclairé, et où l'on avait dressé une table parfaitement servie. Le comte fut frappé du luxe d'argenterie que cette table étalait, ainsi que de la finesse des nappes et des serviettes. Le couvent avait tiré de son trésor et de sa lingerie ce qu'il y avait de mieux pour faire honneur à son hôte. Quant à l'appartement, il contrastait singulièrement, par son aspect délabré, avec le luxe du couvert qui y était dressé. C'était une grande salle qui avait dû être autrefois une chapelle, et dans l'autel de laquelle on avait pratiqué une cheminée. Les parois n'avaient pour tout ornement que les toiles d'araignées qui les couvraient, et quelques chauves-souris attirées par la lumière voltaient au plafond, entrant et sortant selon leurs caprices par les fenêtres brisées. En outre, un arsenal de carabines était pittoresquement disposé contre la muraille. Le comte embrassa cet aspect d'un coup d'œil et admira l'abnégation religieuse de ses bons pères, qui, possédant des trésors, tels que ceux qui étaient étalés à ses yeux, vivaient cependant exposés aux intempéries du ciel, comme les anciens solitaires du mont Carmel et de la Thébaïde. Le supérieur remarqua son étonnement. « Monsieur le comte, dit-il en souriant, je vous demande encore une fois pardon du mauvais dîner et du mauvais gîte que vous trouverez ici. Peut-être vous a-t-on peint l'intérieur de notre couvent comme un lieu de délices. Voilà comme la société nous juge, monsieur le comte. » Aussi, une fois rentré dans le monde, j'espère que vous nous rendrez justice. « Oh, ma foi, général, répondit le comte, je ne sais pas trop ce qui manque à la dîner. Et j'ai fu en pas une patrie de cuisine assez bien organisée. Et à moins que je ne sois le fin, oh, répondit le supérieur, soyez tranquille sous ce rapport, le vin est très bon. Le vin est bon. Et bien, si le vin est bon, c'est tout ce qu'il faut. Seulement, ajouta le supérieur, je crains que nos façons ne vous paraissent peu monacales. Par exemple, nous avons l'habitude de ne jamais souper sans avoir à côté de nous chacun une paire de pistolets. C'est une précaution contre les accidents qui peuvent arriver à chaque minute dans un lieu aussi isolé que celui-ci. Vous voudrez donc bien nous excuser si, malgré votre présence, nous ne nous écartons pas de nos habitudes. » Et à ces mots, le supérieur releva sa robe, tira de sa ceinture une paire de superbes pistolets qu'il déposa près de son assiette. « Fed, général, Fed !» répondit l'Allemand. « Les pistolets, c'est l'ami de l'homme. Chen est aussi, moi, des pistolets. Oh, mais c'est étonnant. Comme les vôtres leur ressemblent, c'est étonnant. Cela se peut, répondit le supérieur en réprimant un sourire. Ce sont de très bonnes armes que j'ai fait venir d'Allemagne des Kükenrenter. Des Kükenrenter, justement ça. Faites donc brandre les miens, qui sont avec ma package générale, pour les combarrer un peu. Après le dîner, comte, après le dîner. Mettez-vous en face de moi, là, très bien. Savez-vous votre bénédicité? Je l'ai su autrefois, mais je l'ai un peu oublié. Tant pis, dit le général, car je comptais sur vous pour le dire. Mais si vous l'avez oublié, on s'en passera. On s'en passera, répondit le comte, qui était de bonne composition. On s'en passera. Et le comte, effectivement, avala son potage sans pénicité, ce que firent aussi les autres moines. Lorsqu'il eut fini, le capitaine lui passa une bouteille. « Goûtez-moi ce vin-là, lui dit-il. » Le comte, se doutant qu'il avait affaire à un vin de choix, emplit un petit verre qui était devant lui, le prit par le pied, examina un instant, à la lueur de la lampe la plus rapprochée, le liquide jaune comme de l'ambre, puis il le porta à sa bouche et le dégusta avec la voluptueuse lenteur d'un gourmet. « C'est étonnant, dit le comte. « Moi qui croyais connaître tous les fins, je ne connais pas celui-là, à moins que ce ne soit du matière d'un nouveau gru. C'est du Marsala, monsieur le comte, un vin qui n'est pas connu et qui mérite cependant de l'être. Oh, notre pauvre Sicile, elle renferme comme cela une foule de trésors oubliés. Comment dites-vous qu'il s'appelle ?» demanda le comte en se versant un second verre. Marsala, Marsala, eh bien, c'est un ponfin, j'en achèterai. Se fend-il cher? Deux sous la bouteille. Foutite, reprit le comte qui croyait avoir mal entendu. Deux sous la bouteille. Deux sous la bouteille. Mais fous habidez le paradis terrestre, général. Je ne m'en fais plus d'ici. Moi, je me fais bénédictin. « Merci de la préférence, comte. Quand vous voudrez, nous vous recevrons. Tiens, deux sous la bouteille. Deux sous la bouteille, » reprit le comte en se versant un troisième verre. « Seulement, je dois vous prévenir qu'il a un défaut, » dit le supérieur. « Il n'a pas de défaut, » répondit le comte. « Je vous demande pardon, il est très capiteux. »« Gabiteux, gabiteux, » dit le comte avec mépris. « J'empoirai une pinte. » qui n'y paraîtra pas plus que si j'avais affalé un fer de sirop de crosseille. Alors ne vous gênez pas, dit le supérieur, faites comme chez vous. Seulement je vous préviens que nous en avons d'autres. En vertu de la permission qui lui était accordée, le comte se mit à boire et à manger en véritable allemand. Mais, il faut l'avouer, il soutint admirablement la réputation dont jouissent ses compatriotes. Les moines, excités par leur supérieur, ne voulurent pas de leur côté laisser un étranger en arrière, de sorte que bientôt on rompit le silence religieux qui avait régné au commencement du repas. Chacun commença à parler à voix basse à son voisin, puis plus haut à tout le monde, au second service. Chacun criait de son côté et commençait à raconter les aventures les plus étranges qu'il fut possible d'entendre. Le comte, si peu qu'il comprit le Sicilien, crut s'apercevoir qu'il était question surtout de coups hardis, exécutés par des brigands, de couvents pillés, de gendarmes pendus, de religieuses violées. Mais il n'y avait rien là d'étonnant. La situation isolée des dignes bénédictins, leur éloignement de la ville, devait les avoir rendus plus d'une fois témoins de pareilles scènes. Le Marsala allait toujours, sans préjudice du Syracuse sec, du Muscat Calabre ou du Malvoisi de Lipari. Si forte que fut la tête du comte, ses yeux commencèrent à se couvrir d'un brouillard et sa langue à s'épaissir. Alors les monologues succédèrent peu à peu aux conversations et les chansons aux monologues. Le comte, qui voulait rester à la hauteur de ses hôtes, chercha dans son répertoire anacréontique et, n'y trouvant rien pour le moment que la chanson des brigands de Schiller, il se mit à entonner tue-tête le fameux Steinlein. Morden Huren Balgen, auquel il lui sembla que les convives répondaient par des applaudissements universels. Bientôt, tout parut tourner autour de lui. Il lui sembla que les moines jetaient bas leurs habits religieux et se transformaient peu à peu en bandits. Ses figures ascétiques changeaient de caractère et s'illuminaient d'une joie féroce. Le dîner dégénérait en orgie. Cependant, on buvait toujours, et chaque fois qu'on buvait, c'était des vins nouveaux, des vins plus capiteux, des vins pris dans la cave du prince de Paterno, ou dans la cantine des dominicains d'Acireal. On frappait sur la table avec des bouteilles vides pour en demander d'autres, et en frappant, on renversait les lampes. Le feu alors se communiquait à la nappe, et de la nappe à la table, et au lieu de l'éteindre, on y jetait les chaises, les bancs, les stalles. En un instant, la table ne fut plus qu'un immense bûcher, autour duquel les moines devenus bandits se mirent à danser comme des démons. Enfin, au milieu de tout ce sabbat infernal, la voix du capitaine retentit, demandant « La monache, la monache !» Un hourra général accueillit cette demande. Un instant après, une porte s'ouvrit et quatre religieuses parurent, traînées par cinq ou six bandits. Des hurlements de joie et de luxure les accueillirent. Le comte voyait tout cela comme dans un rêve. Et comme dans un rêve, il lui semblait qu'une force supérieure clouait son corps à sa place, tandis que son esprit était emporté ailleurs. En un instant, les vêtements des pauvres filles furent en lambeaux. Les bandits se ruèrent sur elles. Le capitaine voulut faire entendre sa voix, mais sa voix fut couverte par les clameurs générales. Il sembla alors au comte que le capitaine prenait ses fameux Küchenreiter, qui ressemblaient si fort aux siens. Il crut entendre retentir deux coups de feu. Il ferma les yeux, tout ébloui de la flamme. En les rouvrant, il vit du sang. Deux brigands qui se tordaient en hurlant dans un coin. La plus belle des religieuses dans les bras du capitaine. Puis, il ne vit plus rien. Ses yeux se fermèrent une seconde fois sans qu'il eût la puissance de les rouvrir. Ses jambes manquèrent sous lui. Enfin, il tomba comme une masse. Il était ivre-mort. Lorsque le comte s'éveilla, il était grand jour. Il se frotta les yeux, se secoua et regarda autour de lui. Il était couché sous un arbre à la lisière du bois, avait à sa droite Nicolosi, à sa gauche Pedara, devant lui Catane, et derrière Catane, la mer. Il paraissait avoir passé la nuit à la belle étoile, couché sur un doux lit de sable, la tête appuyée sur son porte-manteau, et sans autre aide-lit que l'immense azur du ciel. D'abord, il ne se rappela rien, et demeura quelque temps comme un homme qui sort de léthargie. Enfin, sa pensée, par une opération lente et confuse d'abord, se reporta en arrière, et bientôt il se rappela son départ de Catane, les hésitations de son muletier, son arrivée au couvent, son altercation avec le cuisinier, l'accueil que lui avait fait le général, le dîner, le vin de Marsal, les chansons, l'orgie, le feu, les religieuses et les coups de pistolet. Il regarda de nouveau autour de lui et vit sa malle, son sac de nuit et son porte-manteau. Il ouvrit ce dernier, y retrouva son portefeuille, sa pipe d'écume de mer, son sac à tabac et sa bourse. Sa bourse qui, à son grand étonnement, lui parut aussi ronde que si rien ne lui était arrivé. Il l'ouvrit avec anxiété, elle était toujours pleine d'or. Et de plus, il y avait un billet. Le comte l'ouvrit vivement et lut ce qui suit. « Monsieur le comte, nous vous faisons mille excuses de nous séparer de vous d'une façon aussi brusque, mais une expédition de la plus haute importance nous attire du côté de Cetchefalo. J'espère que vous n'oublierez pas l'hospitalité que vous ont donnée les bénédictins de Saint-Nicolas le Vieux et que si vous retournez à Rome, vous demanderez à Monseigneur Morosini de ne point oublier de pauvres pécheurs dans ses prières. Vous retrouverez tout votre bagage, à l'exception des Küchenreiter, que je vous demande la permission de garder comme un souvenir de vous. Don Gaëtan, prieur de Saint-Nicolas le Vieux, 16 octobre 1806. Le comte de Weder compta son or, il n'y manquait pas une obole. Lorsqu'il arriva à Nicolosi, il trouva tout le village en révolution. La veille, le couvent de Sainte-Claire avait été forcé, l'argenterie du monastère pillée et les quatre plus jeunes et plus belles religieuses enlevées, sans qu'on pût savoir ce qu'elles étaient devenues. Le comte retrouva son muletier, remonta sur sa mule, revint à Catane et, ayant appris qu'un bâtiment était prêt à mettre à la voile pour Naples, il s'y embarqua et quitta la Sicile la même nuit. 2 ans après, il lut dans l'Allgemeiner Zeitung que le fameux chef de bandits Gaëtane, qui s'était emparé du couvent de Saint-Nicolas-le-Vieux sur l'Etna pour en faire un repaire de brigands, après un combat terrible soutenu contre un régiment anglais, avait été pris et pendu à la grande joie des habitants de Catane, qu'il avait fini par venir rançonner jusque dans la ville.